Bonjour à tous, vous écoutez Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Au sommaire de ce 74e numéro de Force 7, DLV Agglo lance son plan de paysage et une grande consultation sur la transition énergétique dans son territoire. Reportage dans ce magazine. Le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est rendu au siège manosquin de Proman. Nous entendrons Marc Chapuis et Roland Gomez, fondateurs de l'entreprise. Le Centre des jeunes dirigeants et le réseau Entreprendre ont signé une convention de partenariat. Reportage dans un instant. Villeneuve accueille une coopérative de jeunes majeurs pendant 3 mois. Nous entendrons les responsables de l'agglomération Manosquine et de Mosaïque qui sont à l'initiative de l'opération. Le Centre communal d'action sociale de Manosque a distribué les colis de Noël, l'interview de Jocelyne Coste dans un instant. Paysage et transition énergétique, DLV Agglo écrit son futur.
L'agglomération manosquine se lance un beau défi. Réussir la transition énergétique tout en préservant ses paysages et leur biodiversité. Un sujet qui concerne l'énergie, l'agriculture, l'économie ou bien encore le tourisme. Le président Petrini, flanqué de 2 vice-présidents, messieurs Audan et Dubois, concernés par leur délégation, accueillaient 4 maires déjà mobilisés par les enjeux. Laurence Depied, Benoît Gauvan, Alex Pianetti et Claude Chélan pour les communes de Saint-Martin-de-Brome, Oraison, Allemagne-en-Provence et Vinon-sur-Verdon ont présenté les équipements photovoltaïques existants ou à venir qui contribuent à la transition énergétique. Des productions publiques ou privées conséquentes que le dossier e-Green, projet de production d'hydrogène vert, porté par l'agglomération devrait encore amplifier. Et pour écrire sa transition énergétique, les élus ont fait appel à la Commission nationale du débat public qui va veiller au bon déroulement d'une démarche participative. Pendant 20 mois, de nombreuses rencontres, visites ou débats vont ponctuer la dynamique. D'ores et déjà, un questionnaire est à la disposition des habitants via le site www.dlva.fr. Le public est donc invité à s'exprimer pendant toute la période. Je vous propose d'écouter Xavier Derrien pour la commission du débat public, mais d'abord Paul Audan, dont la commune de Gréoux est déjà bien impliquée pour la transition énergétique et la préservation des paysages. Paul Audan, vous êtes le maire de Gréoux-les-Bains, également vice-président de la DLVA, et vous avez présenté un plan paysage. Les paysages, c'est ô combien important sur notre territoire.
Oui, c'est précieux. Le plan paysage concerne beaucoup de choses. L'agriculture, la biodiversité, le changement climatique, le tourisme, le transport, le patrimoine, la transition énergétique, l'urbanisme, l'eau et la forêt. Et le plan paysage, c'est agir pour le cadre de vie. Et ici, à Gréoux-les-Bains, comme ailleurs sur le territoire, nous sommes très attachés sur ce cadre de vie. D'abord, on va parler de tourisme dans le cadre du plan paysage. Et avec des populations que l'on accueille ici, de curistes et de touristes, il nous paraît très important de le traiter puissamment, ce cadre de vie. Nous sommes communes engagées dans la biodiversité. D'ailleurs, nous avons le label et panneaux d'entrée de ville engagés dans la biodiversité. On a un contrat avec la Ligue de la protection des oiseaux, on fait du fauchage tardif, zéro phyto, on a une convention d'éco-pâturage avec bergers, âniers, chevriers, initiation à l'environnement avec le groupe scolaire, petite plantation avec un marché de fleurs, une aire terrestre éducative avec des classes de cours moyen première année, cours moyen deuxième année, et puis aussi avec l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement, on envoie un projet avec les abeilles. d'œil et la sensibilisation à zéro déchet plastique. Voilà donc commune engagée. Alors au départ, nous avions deux libellules sur notre panneau commune engagée dans la biodiversité. C'était un symbole, quoi. Hein. Et nous étions en train de nous préparer à concourir pour obtenir ce troisième libellule. Puis on nous dit non, maintenant le label change. Vous aurez simplement commune engagée dans la biodiversité. Alors j'ai une adjointe, Joël Thébard, et puis Bruno Saï avec des équipes techniques qui sont très engagées, qui sont au travail au quotidien, et chaque fois qu'ils me présentent un projet, eh bien on y va parce que c'est l'avenir, c'est demain, et il faut que toutes les communes de LVA soient les communes engagées pour la biodiversité.
En ce qui concerne la transition énergétique, vous avez signalé que vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre commune, mais sur un terrain privé.
Oui, effectivement, nous avons, depuis quelques années, nous avons accompagné ce projet avec un opérateur privé, sur du foncier privé. Il y a deux grands parcs photovoltaïques, de près de 182 hectares au total, avec 80 et quelques mégawatts, donc ce qui est considérable, hein, c'est un des plus gros parcs de la région sud, hein, c'est important. Alors, effectivement, pour le retour sur la commune, c'est l'impôt foncier, et pour notre agglomération, c'est l'IFER, hein, cet impôt. C'est intéressant pour la commune aussi, parce qu'on peut négocier, des moyens pour l'action sociale avec l'opérateur. Nous avons accompagné l'opérateur pendant 3-4 ans, hein, parce qu'il y a de nombreux rendez-vous en préfecture, au guichet unique, où là, nous sommes en contact et nous travaillons avec les partenaires publics associés, accompagnés par l'État, bien évidemment, parce qu'il faut qu'ils soient, que ces parcs photovoltaïques ne soient pas installés n'importe où, répondent à certaines conditions, ce qui est tout à fait normal. Hein. On ne peut pas détruire la forêt, on ne peut pas construire et détruire en même temps. Donc c'est là une bonne chose. Et donc nous sommes très contents. Alors ces parcs ne viennent pas impacter, l'environnement, parce qu'ils ne sont pas visibles par nos nombreux visiteurs. C'est ce qui, à mon sens, est important. Faire de la transition, s'engager pour la transition écologique, transition énergétique, ça me paraît fondamental, et c'est très important pour construire l'avenir, hein, de notre société. Mais il ne faut pas poser cela n'importe où, parce que ça fait partie aussi du cadre de vie.
Votre sentiment sur la démarche de concertation qui est engagée, qui va durer jusqu'en 2024 ?
Oui, c'est une approche sociétale, ça me paraît important qu'on puisse échanger. D'abord, être en contact avec les médias pour rapporter toute l'information à nos administrés du territoire, et puis échanger avec eux et également avec certaines associations tournées vers, la biodiversité et la protection de la nature. Ça me paraît fondamental et incontournable.
Xavier Derrien, vous représentez la Commission nationale du débat public. Une explication sur cette commission ?
La Commission nationale du débat public, c'est l'autorité garante du débat public en France. C'est une autorité administrative indépendante créée en 1995 déjà par la loi Barnier et qui est devenue en 2002 cette autorité administrative indépendante qui a pour objectif de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets, plans et programmes qui ont un impact sur l'environnement.
Depuis un an, vous travaillez avec la DLVA. Vous travaillez dans quel sens ?
Alors, j'ai été nommé le 6 octobre 2021 garant de la concertation sur le projet de plan paysage et transition énergétique. Cette mission, durant une année pleine, avait pour objet de travailler sur le format des phases de concertation à venir sur le plan paysage et transition énergétique. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de donner des conseils, un aspect méthodologique sur quel format est opportun. C'est vraiment conseiller le maître d'ouvrage sur le champ de la concertation qui va être mise en œuvre dès 2023.
On reste dans la méthode et pas du tout dans l'intervention.
Cette première partie de mission, durant une année, qui a fait l'objet d'un bilan, le bilan de la mission du garant que j'ai rendu le 14 novembre dernier, c'était effectivement sur la conception. Désormais, j'ai été renommé par la CNDP récemment pour une deuxième mission qui s'enchaîne avec la première, où là, il s'agit d'être en conseil sur la phase concrète de concertation, alors je devrais dire les différentes phases de concertation, c'est-à-dire que je vais être là pour garantir le droit qu'à chaque citoyen, qu'à chaque personne de pouvoir participer à ces moments de concertation mis en œuvre par le maître d'ouvrage. qui est très important, c'est que je suis totalement indépendant du maître d'ouvrage. Je ne suis pas nommé par lui, je ne suis pas rétribué, rémunéré par lui. Et je suis là pour que le public puisse garantir, avoir accès à l'ensemble des informations et surtout puisse s'exprimer et que ce qu'il dit soit pris en compte par le maître d'ouvrage.
Vous avez déjà eu des expériences en la matière ?
Alors, j'ai travaillé sur plusieurs missions depuis 2017, effectivement, notamment entre 2019 et 2020-2021, sur le projet Réponse autour de l'Étendbert, porté par le S3 Pays PACA. Il s'agissait de parler de questions de qualité de l'air et de pollution et de lien avec la santé environnement tout autour de l'Étendbert. Et ça a donné lieu, effectivement, à une mission de conseil et d'appui méthodologique qui a permis de conseiller le maître d'ouvrage au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des risques industriels, PACA. J'ai également travaillé comme membre d'une commission particulière de débat public sur un projet routier, Fosse Salon, en 2020 et 2021, porté par la DREAL PACA. Un débat public, c'est très différent de ce que je fais là, c'est-à-dire que c'est la CNDP qui est saisie sur un grand projet qui a un impact sur l'environnement, pour faire simple, et qui monte une commission particulière de débat public, avec un président et des membres de commission, qui là met en œuvre directement, organise les phases de concertation et de débat public. Ici, c'est le maître d'ouvrage DLV Aglo qui pilote la concertation. La CNDP est dans un rôle de conseil et d'appui. C'est très différent.
Le préfet Marc Chapuis en visite au siège de l'entreprise Proman.
C'est une entreprise familiale ancrée dans son territoire et une belle réussite économique qui a reçu la visite du préfet des Alpes de Haute-Provence. Accompagné de la directrice de l'emploi et du travail, Anne-Marie Durand, le représentant de l'État y a fait la connaissance des Roland Gomez, père et fils, et d'une partie de leur équipe, notamment Laurent Robert, directeur général de Proman. Rappelant les débuts difficiles en 1990 de l'entreprise, Roland Gomez signalait l'appui de sa banque depuis le début, le Crédit Agricole, qui a pu soutenir cette nouvelle société basalpine qui se lançait dans l'intérim. Un soutien plus simple à obtenir au fur et à mesure du développement de Proman. Une progression exponentielle, remarquait le préfet Chapuis, et qui vise aujourd'hui les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Cette année, 3 850 millions d'euros pour une société présente dans 16 pays et qui compte 900 agences, dont 400 en France. Proman est le 4e acteur européen du secteur et atteint le 13e rang mondial. 4 000 collaborateurs et 100 000 équivalents temps plein pour les salariés intérimaires, des employés qui trouvent une souplesse dans le système, ce qui leur permet de garder leur liberté. Le siège manosquin en zone Saint-Maurice effectue de nombreuses missions, dont l'édition des factures ou des bulletins de salaire. C'est aussi à Manosque que naissent la plupart des idées. Liées à la responsabilité sociétale des entreprises, RSE, des actions favorisent la diversité, l'action sociale ou encore la flexisécurité via le dispositif interne Flexeo qui accompagne le salarié jusqu'au CDI aux fins d'employabilité, un plus par rapport au CDI intérimaire. Très attentif, le préfet a pris bonne note des demandes pour accélérer les délais ou simplifier les démarches administratives en lien avec les acteurs du secteur. Présent également, le maire de Manosque est délégué à l'insertion au département Camille Galtier, ainsi que Daniel Margot qui préside la CCI 04, se sont opportunément intégrés aux discussions. Je vous propose d'écouter le préfet Chapuis, puis le fondateur de Proman, Roland Gomez. Marc Chapuis, vous êtes préfet des Alpes de Haute-Provence. Vous avez assisté à la présentation et à l'historique de la société Proman. Qu'en pensez-vous ?
Alors, j'ai été reçu aujourd'hui par M. Gomez père, qui est le fondateur de Proman, et puis son fils, qui est aujourd'hui le président de la société. C'est à l'évidence une des grandes réussites économiques de ces dernières décennies, à la fois dans le département, dans la région, mais même en France, puisque en partant d'une entreprise familiale d'intérim, on arrive à un groupe implanté dans 16 pays qui fait de l'ordre de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est assez peu connu, finalement, cette réussite extraordinaire. Et elle est née à Manosque, elle reste à Manosque, très ancrée dans son territoire. C'est ce qui fait cette formidable réussite, une belle histoire de notre département. Et c'est vrai que c'est très impressionnant de voir cette évolution avec un groupe qui reste encore aujourd'hui à 100% familial.
Vous avez évoqué évidemment un professionnel de Manosque, mais avec une petite distinction, vous avez dit, tiens, pourquoi pas management ? Ça leur va bien.
Alors c'est vrai qu'en arrivant dans le département, on me parle de Proman et on me dit Proman, man pour Manosque. Donc j'ai posé la question au président pour savoir si c'était effectivement le man de Manosque ou le man de Homme. Et peut-être y a-t-il même un troisième terme qui pourrait être le man de management, parce que Proman est une entreprise leader dans le travail temporaire, donc dans le fait de proposer aux entreprises de la main-d'œuvre qualifiée pour faire tourner la production. Ça renvoie à la qualité des hommes, à leur formation, mais aussi au management et au management des carrières, des équipes. Et c'est tout ça qu'il y a derrière Proman, et on sent derrière l'acteur économique aussi un acteur très engagé socialement dans le territoire, auprès des publics fragiles, dans la diversité. Donc c'est tout ça qui fait finalement l'ADN de cette société et qui est assez impressionnant.
Je vais citer deux exemples, par exemple, sur leur différence en termes d'employabilité. Bien sûr, le CDI aux fins d'employabilité, et puis un départ 1 pour 1000, ça aussi, ça devrait favoriser une insertion particulière.
C'est vrai que cette entreprise est très engagée dans l'accompagnement des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui, pour des raisons diverses, ont besoin d'être accompagnées spécifiquement pour accéder à nouveau au marché du travail. Et donc les initiatives que vous évoquez, qui sont à la fois celles de l'entreprise Proman et puis celles d'autres groupes, le groupe SOS pour ne pas le citer, permettent d'accompagner des personnes qui sont parfois bénéficiaires de minima sociaux, qui ont besoin d'un coup de pouce pour accéder à l'emploi, d'être accompagnés et finalement d'obtenir un CDI et de pouvoir progressivement se réinsérer sur le marché du travail. Ça concerne beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont suivies par les services sociaux et qui, par cet accompagnement, peuvent sortir vers le monde du travail. Je pense que c'est extrêmement intéressant, à la fois pour ces personnes qui trouvent une issue positive et également pour les entreprises qui les embauchent, parce que souvent, c'est aussi quelque chose qui soude et qui est un facteur de cohésion dans les entreprises. Donc je trouve que ces initiatives, qui sont au cœur du projet d'entreprise de Proman, sont particulièrement vertueuses et elles sont intéressantes aussi, évidemment, pour l'État.
Dernière question, Monsieur le Préfet, vous êtes en contact direct aujourd'hui avec les dirigeants de Proman et notamment le fondateur et le président actuel. Votre sentiment sur ces deux personnalités ?
Oh, ce sont des personnalités hors du commun, à l'évidence, extrêmement qui ont un parcours de vie extrêmement riche et inspirant. C'est une chance de pouvoir échanger avec des grands entrepreneurs qui sont partis finalement d'une expérience toute simple, pas forcément ni réseau, ni études qui les ont finalement amenés là où ils sont et qui, à la force de leur volonté, de leur engagement, ont réussi formidablement bien. Donc je pense que ce sont des exemples inspirants pour tous ceux qui aujourd'hui souhaitent aussi réussir dans la vie et mener une entreprise personnelle qui est aussi une entreprise qui aujourd'hui fait vivre plus de 40 000 collaborateurs dans le groupe Proman. Donc c'est une réussite exceptionnelle et notre département a la chance de pouvoir compter sur plusieurs de ces réussites. Et je pense qu'il faut aussi mettre à l'honneur ces personnes qui, encore une fois, peuvent être très inspirantes pour d'autres personnes.
Roland Gomez, président fondateur de Proman, votre sentiment sur la visite du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ?
Ah, mais moi, c'est un excellent sentiment. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de nos problématiques. Enfin, on a la chance, ces dernières années, d'avoir eu des préfets, moi, je pense, très intéressés par l'économie sur le territoire, le développement et à l'écoute des entreprises. Donc, c'est parfait. Un bon rendez-vous.
Vous avez également une voix qui porte à ce niveau-là ?
Oui, sur ces sujets de l'économie, de l'emploi, oui, on a une voix qui porte, mais on pourrait aussi avoir des préfets qui ne soient pas dédaigneux, on ne va pas employer des mots comme ça, mais qui soient moins intéressés par le sujet. Et là, depuis quelques fois, avec ce nouveau préfet, entre guillemets, qui est là depuis 4-5 mois chez nous, c'est une chance qu'il soit comme ça.
Vous avez rappelé l'histoire de Promann et puis les débuts difficiles et l'importance de Daniel Vasselin, le banquier du Crédit Agricole, qui vous a soutenu dès le départ.
Oui, parce que c'est toujours ce qu'on dit, et comme moi je suis un supporter de mes banquiers, j'explique que vu mon origine et sans le soutien du Crédit Agricole et donc de la personne qui incarnait le Crédit Agricole, et c'est bien que tu le nommes aussi là, Daniel Vasselin, parce que c'est vrai que c'était pas un pote, c'était juste la relation bancaire, mais il a cru en nous, il a eu raison d'ailleurs, et honnêtement, je suis vraiment persuadé que sans son courage pour défendre le dossier Promann des premières années, qui était un dossier très compliqué, on ne serait pas là.
Alors évidemment, c'est la réussite économique, mais c'est aussi le volet social qui vous anime. Je pense à un parrain pour mille, des actions avec le rire médecin, avec les jeunes qu'on envoie et qu'on amène au stade Vélodrome ou alors au concert de soprano. Ça vous tient à cœur?
Ah oui, ouais, c'est un peu mon ADN. Enfin, tout le monde sait que je n'ai pas eu l'enfance la plus heureuse. Alors, est-ce que c'est pour ça? Mais oui, depuis le début, c'est quelque chose qui m'anime. Et dès qu'on a pu, j'aime bien essayer de partager avec les autres ce que le travail surtout, mais aussi la chance m'a permis de réussir, quoi. Et c'est vrai que ça s'inscrit aujourd'hui dans quelque chose qui paraît banal, ça s'appelle la RSE. Nous, on la pratique depuis toujours, et même si elle n'était pas une obligation, on le ferait, parce qu'on le fait avec le cœur.
Entreprendre et jeunes dirigeants, deux réseaux complices.
Complices et complémentaires, le réseau Entreprendre et le Centre des jeunes dirigeants ont concrétisé leur rapprochement en signant une convention bipartite. Les deux structures ont des points communs mais aussi des différences. Une association bidépartementale pour entreprendre et un réseau national pour l'antenne basalpine des jeunes dirigeants mais des terrains communs sur l'emploi et le développement économique. Le tout avec de bonnes doses de conseils et d'accompagnement de part et d'autre, le réseau Entreprendre et le CJD entendent échanger et partager pour servir au mieux les intérêts des territoires comme de ceux qui sollicitent leurs services. Écoutons les deux partenaires, Béatrice Olive qui préside Entreprendre et Solène Riva pour le Centre des jeunes dirigeants. Béatrice Olive pour le réseau Entreprendre. Le réseau Entreprendre est très dynamique.
Merci de le souligner. Merci de le souligner. On l'espère, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On est engagé pour le développement de l'emploi sur notre territoire et ça passe par une dynamique et des actions qu'on déploie pour accompagner les dirigeants.
Des accompagnements, mais aussi des conseils et puis même des lauréats qui sont primés et qui reviennent. Vous avez même un club des lauréats.
Tout à fait, c'est ce qui permet de mutualiser, de faire du lien. Le Club du Lauréat, ça leur permet aussi de découvrir une thématique chaque mois. Ça fait partie aussi des outils qu'on met à leur disposition pour avancer le plus sereinement possible dans leur vie de dirigeant.
Alors vous êtes basé dans le 04 et le 05, donc deux départements très dynamiques en plus. Et vous êtes en réseau, évidemment c'est le mot qui vous convient.
C'est le mot, bien sûr, être en réseau, ça évite l'isolement. C'est extrêmement important pour un chef d'entreprise, un dirigeant, d'avoir des appuis, d'avoir ce fameux réseau, que ce soit un réseau d'affaires, un réseau financier. On a toujours besoin d'avoir des gens vers qui se tourner et c'est là que le réseau intervient. Alors, d'où notre nom, Réseau Entreprendre, effectivement. C'est une force.
Et votre réseau a trouvé un allié particulier, c'est le Centre des jeunes dirigeants, et vous venez de signer une convention.
Oui, on a signé cette convention, effectivement on a renouvelé puisqu'elle avait déjà été signée une première fois il y a 3 ans. Et ça prend tout son sens quand on sait que nos deux associations sont tout à fait complémentaires et qui œuvrent chacune pour les jeunes dirigeants.
à vos côtés Solène Riva pour justement le CJD. Le Centre des jeunes dirigeants, à quoi ça sert ?
C'est une sorte d'école du dirigeant, puisque en France, on n'a pas d'école pour apprendre à devenir dirigeant. Et le CJD est là justement pour aider les dirigeants à prendre leur rôle et à les aider dans la gestion de leur entreprise. C'est un mouvement d'entrepreneurs engagés et humanistes.
Vous êtes vous-même entrepreneur, je pense ?
Oui, tout à fait. Je dirige un cabinet d'avocats qui est sur Manosque.
Avec vos amis, donc maintenant, du réseau Entreprendre, vous allez organiser des opérations communes ?
Oui, c'est vraiment le but, le partage, puisque c'est l'ADN, je crois, de nos deux associations. Faire en sorte que les dirigeants, les entrepreneurs qui font partie de ces associations puissent partager. Et l'idée du partenariat, c'est vraiment ça, c'est de croiser nos différents ateliers, les différents outils qu'on peut mettre à disposition de nos membres, et bien de pouvoir les partager ensemble.
Vous avez également un réseau national extrêmement fort, extrêmement développé, 5600 membres, c'est pas rien.
Exactement, et c'est là toute la force du CJD, c'est de se dire que même quand on est membre eh bien, du CJD à Manosque sur le 04, on bénéficie également de tout l'appui du CJD national avec des entrepreneurs, des dirigeants sur toute la France, sur tout le territoire national.
Comment joindre votre structure ?
Pour joindre notre structure, c'est tout simple, vous tapez CJD sur Internet et vous allez retrouver eh bien, le CJD Val-d'Urance, Manosque, sur lequel eh bien, vous allez retrouver nos coordonnées pour pouvoir nous joindre et adhérer, bien évidemment.
Et pour le réseau Entreprendre ?
Réseau Entreprendre Alpes du Sud, donc 0405, le siège, le bureau est basé à Sisteron. Donc voilà, les coordonnées, le téléphone, je ne connais pas, vous m'excuserez avec maintenant les contacts rentrés directement, on oublie les numéros. Mais tout à fait, tout simplement, absolument, Réseau Entreprendre, Alpes du Sud, et vous nous trouvez, aussi simplement que ça.
Villeneuve, des jeunes majeurs ont leur propre coopérative.
Ils sont une dizaine de jeunes filles et garçons qui ne se connaissaient pas et sont unis et prêts à croquer la vie. Initiée par Durance Luberon-Verdon Agglomération et pilotée par Mosaïque, la coopérative de jeunes majeurs a ses quartiers 3 mois durant à Villeneuve jusqu'au 28 février dans un local prêté par la commune. Ils vont se frotter au monde du travail, mais côté entrepreneurs. Pour cela, des idées et surtout des talents émergent, encouragés par leurs animateurs, Geoffroy Lindenmeyer et Stéphane Dantin. Leur slogan, « Des jeunes à votre service », affiche volonté et dynamisme. Coopérative d'activités et d'entrepreneurs, Mosaïque a l'habitude d'accompagner des jeunes de moins de 18 ans en été pendant 2 mois dans une démarche de service. Là, les coopérateurs ont de 18 à 25 ans et la durée du dispositif à 1 mois de plus que les CJS. Ils ont baptisé leur coopérative Market Service et ont une gouvernance collective. Actuellement, elle est constituée d'Alan, Lydia, Agathe, Maxime, Fatia, Néo, Raphaël et Mehdi. La liste est encore ouverte jusqu'au 30 décembre. Et déjà, la CJM fait des propositions. Garde d'enfants ou d'animaux, cours d'anglais ou de dessin pour enfants, maintenance et cours d'informatique, atelier maquillage et coiffure ou encore jardinage, rangement bois et même atelier cupcake à domicile, sans oublier des cours de danse sud-africaine et vente de chocolat par correspondance. La palette est large et les jeunes de Market Service étaient présents sur le marché de Noël de Villeneuve, une présence remarquée. Plusieurs partenaires sont alliés à la démarche, Mission Locale, Pôle Emploi et l'École de la Deuxième Chance notamment. Suite à l'inauguration de la CJM et devant un beau buffet préparé par leurs soins, Béatrice Garcia pour l'agglomération et Catherine Bertonèche, co-gérante de Mosaïque, répondent à mes questions. Béatrice Garcia, vous êtes déléguée à la jeunesse à la DLVA et la DLVA qui soutient cette opération de la coopérative jeune majeure.
Oui, tout à fait. C'est la première coopérative jeune majeure que nous mettons en place au titre de DLVA Glo, puisque jusqu'à présent, on développait dans les coopératives éphémères plutôt des CJS qui s'adressaient aux 16-18 ans. Et là, cette fois-ci, cette CJM s'adresse aux 18-25 ans.
Avec certainement des profils particuliers et avec peut-être aussi des projets professionnels.
Oui, l'objectif, c'est quand même qu'ils puissent vivre une expérience de chef d'entreprise où ils vont pouvoir aller à la recherche de chantiers, faire des devis, des factures et puis mettre en valeur leur savoir-faire. Et voilà, on espère que pour eux, ça sera une belle expérience à vivre tous ensemble. Donc oui, notre partenaire de la mission locale nous ont vraiment beaucoup aidés pour constituer ce groupe de jeunes, puisqu'ils accompagnent des jeunes dans le cadre de contrats d'engagement jeune. Dans le cadre de ces contrats, les jeunes ont à vivre une expérience professionnelle. Pour eux, ça va être vraiment un tremplin pour vivre une expérience professionnelle. Et nous avons aussi un autre partenaire qui accompagne les jeunes, c'est l'école de la deuxième chance, hein, qui ont aussi des jeunes voilà, dans leur entourage, dans leur action, qui voilà, peuvent aussi faire partie de cette CJM.
On sent bien que c'est un choix de la collectivité territoriale vers la jeunesse, vers sa jeunesse.
Oui, en tant qu'élu de DLV Agglo, en tant qu'élu à la jeunesse, le président est aussi sur cette même ligne-là. Notre politique s'axe vraiment autour de l'autonomie des jeunes. Et avec cette CJM, on est vraiment là-dedans, permettre à ces jeunes à la fois de vivre une expérience au sein d'un groupe, donc une expérience collective, mais aussi une expérience individuelle vers l'autonomie, parce que je pense qu'ils vont sortir grandis de cette expérience, ils vont avoir gagné en autonomie et je leur souhaite vraiment de pouvoir développer tout un tas de chantiers, de projets à travers cette CJM.
Alors à vos côtés, Catherine Bertonnèche pour la CE Mosaïque, qui est en charge de mettre en musique justement cette dynamique. Comment ça se passe avec les jeunes ?
Ben écoutez, moi je suis assez agréablement surprise. En fait, il y a un petit groupe de jeunes, pour l'instant pas tout à fait complet, mais un petit groupe de jeunes qui est déjà tout à fait enthousiaste et emballé et qui se déplace jusqu'à Villeneuve, puisqu'on a fait le choix d'une coopérative jeune majeure rurale. Et on remercie la ville de Villeneuve qui nous accueille et qui permet à ces jeunes de trouver un petit cocon d'accueil.
C'est une première d'ailleurs en région PACA.
C'est une première en région PACA et puis il y a vraiment très peu encore d'expérience de ces coopératives jeunes majeurs. Elle a été travaillée avec un petit groupe de chercheurs et donc on est dans cette expérimentation avec eux depuis un peu plus d'un an. Et on est ravis de pouvoir démarrer. Ça n'a pas été simple et en effet la mission locale a vraiment été un partenaire important. On a une jeune qui est en immersion chez nous tout en étant à l'école de la deuxième chance aussi. Et il reste des places. Je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que c'est autant de jeunes qui ne se connaissaient pas et qui viennent de se rencontrer et qui créent leur entreprise.
Et en l'occurrence, une coopérative. Catherine Bertonnèche, comment ça se passe concrètement justement avec ces jeunes ? Il y a deux animateurs qui ont été recrutés pour les accompagner, les encadrer ?
C'est exactement ça. On a recruté deux animateurs un mois avant, de façon à ce qu'ils aient le temps de se former eux-mêmes. Donc ils ont une formation adaptée à eux, à distance malheureusement. Mais voilà, on essaye de pallier à cette difficulté-là avec eux. Ils ont autour d'eux toute la coopérative, je dirais. Pour exemple, demain on a une assemblée générale, donc on a invité les jeunes et les deux animateurs à nous rejoindre sur la pause de midi pour déjeuner avec. Il y aura une cinquantaine d'entrepreneurs, il y en a 150 à Mosaïque, mais dans toute la PACA. Donc demain, il y aura 50 personnes. Ça va permettre aux jeunes de se présenter, de prendre l'habitude de savoir se présenter et puis de rencontrer d'autres entrepreneurs qui, en fait, ont vécu la même aventure qu'eux, de façon peut-être plus individuelle.
Il y a de la convivialité, de la solidarité, mais il y a aussi des problèmes, et notamment un problème de déplacement et de mobilité pour ces jeunes.
Oui, c'est pas facile. Hein. On a fait ce choix-là assez consciemment, en se disant que la question de la mobilité, c'est une question à résoudre. Donc, il y a des bus, évidemment, qui permettent de rejoindre. Ils ont les horaires qu'ils ont. Il n'y en a pas forcément autant qu'il en faudrait pour une entreprise. Donc, ça se passe pas si mal. Il y a du covoiturage qui se met en place. Les deux animateurs participe aussi à faire un petit ramassage de jeunes, voilà, de façon à ce qu'ils puissent venir. Ils s'organisent entre eux, ça pousse à la solidarité aussi.
Et vous l'avez dit, c'est encore un dispositif qui est ouvert jusqu'au moins le 30 décembre.
C'est ça, les jeunes en fait ont pris cette décision de le garder ouvert, donc moi je dirais qu'il reste 3-4 places. Voilà, donc si des jeunes se sentent tentés par l'expérience, ce qu'on peut voir, nous, des jeunes, c'est qu'ils ont vraiment la pêche, ils ont le sourire, ils sont contents, ils ont fait une première opération sur le marché de Noël ici à Villeneuve, qui a été fructueuse et où ils ont vraiment découvert la posture d'entrepreneur.
Le CCAS de Manosque fête Noël.
C'est une tradition bien ancrée et appréciée. Le Centre communal d'action sociale distribue des colis de Noël à des seniors de la ville. Et cette année, plus de 300 colis ont été distribués sous conditions de ressources et bien sûr résidence. L'occasion aussi pour beaucoup de faire connaissance avec Virginie Houlès, qui succède à Karine Colson et dirige désormais le CCAS manosquin. Je vous propose d'écouter Jocelyne Coste, adjointe au maire et vice-présidente du CCAS, qui insiste sur l'aspect festif que le centre entend donner à cette fin d'année par le biais de cette distribution. Jocelyne Coste, vous êtes élue à la ville de Manosque, adjointe et en charge de la solidarité. C'est important, ces colis de Noël, pour les personnes âgées?
Effectivement, c'est très très important, parce que c'est le côté festif de Noël pour des personnes qui souvent ne sortent pas de chez elles.
Quand vous dites festif, ça veut dire qu'il y a des ingrédients qui permettent d'imaginer la fête dans ces colis?
Et oui, c'est un véritable repas de Noël avec des entrées appétissantes, avec un plat, avec deux accompagnements très souvent, et puis un dessert et des friandises.
Combien de personnes sont concernées par ces colis de Noël?
Entre 300 et 320 personnes, des personnes isolées pour la plupart et quelques couples.
C'est un budget important pour la ville de Manosque?
Oui, c'est un budget qui tourne entre 5 et 6 000 euros.
Et puis cette année, c'est assez particulier aussi parce que Karine Colson est partie et puis Virginie Houlès est venue la remplacer. Parlez-nous de cette nouvelle directrice du CCAS.
Le CCAS, effectivement, a une nouvelle directrice qui est une jeune femme. L'équipe s'est immédiatement soudée autour d'elle et c'est une équipe qui marche.
Qui marche et qui rend service à la population.
Oui, qui rend service à la population. Sachant que dans le programme de Noël, il y a le colis de Noël, il y a la distribution de chocolat dans les maisons de retraite, les trois maisons de retraite comme l'an dernier. Et lundi prochain, nous faisons justement pour les résidents des maisons de retraite une sortie illumination comme l'an dernier, avec un goûter organisé et surtout la visite de la crèche et puis prendre le petit train avant de rentrer.
Alors au CCAS, il n'y a pas, hélas, que le côté festif, il y a aussi le côté solidarité et c'est une action principale du Centre communal d'action sociale.
Oui, le côté solidarité, c'est le côté primordial du CCAS, mais nous voulons aussi avoir quelque chose qui soit plus relationnel, qui soit plus festif. C'est pour ça que nous faisons toutes ces actions de fin d'année et que nous avons fait le spectacle Senior au mois d'octobre, que nous referons l'année prochaine.
Une brève, François, pour clore ce magazine?
Oui, Louis, je pourrais vous parler de Noël, repas de fête et cadeaux aux enfants. Parler aussi des personnes isolées ou sans domicile fixe qui, hélas, vivent près de chez nous. Je pourrais également évoquer les pays en souffrance, l'Ukraine ou les États africains notamment. Parler des exils forcés, des milliers de migrants jetés sur les mers et dans l'hiver. Penser à toutes ces situations, tous ces drames. Mais non, je voudrais simplement relayer le message alarmant de l'établissement français du sang, un appel récurrent chaque fin d'année et une situation très tendue. Il y a 10 jours, l'EFS nous alertait sur la faible mobilisation des donneurs de sang en cette fin d'année. Depuis, les réserves de produits sanguins de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse se dégradent et ont baissé de 500 poches en passant de 5300 à 4800 poches en stock. Face à cette situation critique, un dispositif alerte rouge a été déployé pour inciter les citoyens à se mobiliser au plus vite. Il manque donc chaque jour 1500 dons de sang et un sursaut de la population est nécessaire. Les collectes de sang connaissent depuis 3 semaines une forte baisse de la fréquentation. l'EFS appelle à un sursaut de la population indispensable pour poursuivre la prise en charge des patients. Virus hivernaux, contexte socio-économique, conditions météorologiques ou encore reprise du Covid, de nombreux facteurs expliquent la baisse de la fréquentation des collectes de sang ces dernières semaines. L'appel à la mobilisation lancé auprès des donneurs la semaine dernière est resté sans grand effet. Le niveau des réserves de sang chute toujours dangereusement. Moins de 80 000 dons de sang sont aujourd'hui disponibles alors qu'il en faudrait plus de 100 000. À travers cette nouvelle alerte, l'établissement français du sang demande à l'ensemble des citoyens éligibles aux dons de se mobiliser massivement. Si la situation ne s'améliore pas à très court terme, l'EFS pourrait être en difficulté pour fournir les produits sanguins aux établissements de santé. En une semaine, en région provençale Côte d'Azur et en Corse, les réserves de produits sanguins ont diminué de 500 poches, en passant de 5300 à 4800 malgré l'appel à la mobilisation générale. Et face à cette situation critique, l'EFS déploie plus de 80 collectes dans tout le territoire pendant les vacances de fin d'année, en plus des 6 maisons du don ouvertes à Avignon, Arles, Nice, Aix-en-Provence, Marseille et Toulon. À noter donc, pour savoir où donner ou prendre rendez-vous pour faire un don de sang, c'est tout simple, dondesang.efs.sante.fr. Il y a également l'appli Don de sang. Voilà, pensez donc à donner votre sang si vous êtes en possibilité de pouvoir le faire, car la situation est critique. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Ça ne nous empêche pas, Louis, de penser bien sûr aux situations évoquées plus haut. Bon Noël à tous et à bientôt.